Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Aujourd'hui, émission spéciale pour fêter les 10 ans de l'AOP Terrasse du Larzac. Nous enregistrons cette émission directement au château de Jonquière. Autour de la table, nous avons Charlotte de Béarn. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Nous avons ensuite Vanessa Méline. Bonjour Vanessa.
Bonjour.
Et Sébastien Fillon. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Ensuite, pour animer cette émission, bien sûr, je suis accompagnée de mon acolyte Samuel Hendrix. Bonjour Samuel.
Bonjour à toutes et à tous.
Cette émission va se concentrer principalement donc sur l'AOP Terrasse du Larzac, que vous avez sûrement déjà entendu. Les 10 ans de cette AOP dont on va parler, donc on va présenter un petit peu l'AOP, les domaines et les portraits des gens qui font le vin qui constitue cette AOP. Et on reviendra sur cet anniversaire et les événements qui vont le constituer. Charlotte de Béarn, donc vous êtes vice-présidente de l'AOP et donc vigneronne ici au château de Jonquière, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça, tout à fait.
Donc merci de nous recevoir déjà dans ce cadre assez idyllique. On entend, il y a un petit peu de vent, mais c'est très très beau ici.
Oui, il y a un petit peu de vent, mais c'est ce qui fait la marque des terrasses du Larzac aussi, de notre appellation. Donc effectivement, on est à Jonquière, au cœur de l'appellation, sous le plateau, sous le Mont Saint-Baudil et le Rocher des Vierges. C'est un lieu assez magique, effectivement, qui est positionné ici depuis le XIIe siècle, où il y a toujours eu de la vigne et du vin.
Alors on va y revenir sur la description de ce lieu. Pour terminer le tour de table, Vanessa Méline, vous êtes directrice du syndicat AOP Terrasse du Larzac.
Tout à fait.
Depuis combien de temps ?
4 ans.
On y reviendra. Et pour terminer, Sébastien Fillon, président de l'AOP, et vous venez du domaine Le Clos du Cerf.
Oui, c'est ça, à Saint-Jean-de-la-Blaquière.
Merci à tous et trois pour cette présentation. Samuel ?
Pour rappeler les terrasses du Larzac, l'appellation comporte 32 communes, elle regroupe 96 caves particulières, 3 coopératives et 4 négoces vinificateurs et valorise 750 hectares dont 70% conduits en agriculture biologique, qui est une des pattes, on va dire, des terrasses du Larzac. Oui.
C'est exactement ça, vous êtes bien renseigné.
Elle fait son travail d'investigateur. Alors pour présenter un petit peu l'AOP, est-ce qu'on peut parler de son historique, comment a été créée cette AOP et où est-ce que ça a commencé?
Oui, parce qu'elle fête ses 10 ans, mais c'est une histoire bien plus longue.
C'est beaucoup plus long que ça, on ne va pas remonter trop loin, mais on peut remonter dans les années 90, où ici c'était l'appellation Coteaux du Languedoc. Au début des années 2000, l'appellation Coteaux du Languedoc s'est élargie et est devenue une très grande appellation qui va de Nîmes à Perpignan, qui est l'appellation Languedoc. Et les appellations de ce secteur où nous sommes ont eu l'impression qu'ils allaient être un peu noyés dans quelque chose de beaucoup trop vaste pour eux. Et ils se sont réunis en se disant, mais nous, on a quand même quelques spécificités. On a un terroir avec plus de caractéristiques que cette grande appellation. Et donc, ils ont commencé à réfléchir, à voir comment ils pouvaient s'organiser entre eux. Donc ça, c'est dans les années 90. Et c'était l'émergence de ce qui allait devenir l'appellation Terrasse du Larzac, qui a officiellement été créée comme dénomination de l'appellation Languedoc en 2004, et puis AOC en tant que telle en 2014.
Pourquoi on se regroupe sous forme d'AOP? Qu'est-ce que ça apporte en fait aux vignerons et vigneronnes?
Alors il n'y a pas d'obligation, c'est une démarche collective initiée par les vignerons s'ils en ont envie, s'ils le souhaitent, s'ils ont l'intime conviction que ça va leur apporter quelque chose à eux et aux consommateurs aussi, puisqu'ils vont proposer un produit lié à cette appellation. C'était l'envie, je pense, des gens qui ont initié ça de travailler collectivement et de collectivement porter leur terroir et porter leur vin pour les faire reconnaître par les consommateurs. Il y avait des domaines très reconnus dans le secteur et une partie de ces domaines avait l'intime conviction et en tout cas avait la volonté de voir la région et le secteur s'épanouir collectivement. Ils ne voulaient pas être seuls au milieu d'un désert, mais que leur rôle de locomotive serve aussi le collectif et l'ensemble des vignerons autour. Et ça, l'appellation est le meilleur outil pour développer une image commune et aider la promotion du produit fait localement avec les caractéristiques du lieu.
Il y avait aussi peut-être l'envie de s'éloigner du fonctionnement des grosses coopératives, peut-être aussi de se démarquer de
la
pratique.
Oui et non, parce que dans les gens qui ont initié cette démarche, il y avait aussi des coopératives. Mmh. Des coopératives locales qui ne sont pas des grosses coopératives, parce qu'ici les coopératives sont des coopératives de village, donc sont plutôt petites à l'échelle du Languedoc. Mais il y avait aussi des coopérateurs qui ont compris l'intérêt de défendre ce lieu et les vins de ce lieu. Donc c'était vraiment un travail mixte entre caves coopératives et caves particulières. Si ce n'est qu'il y a effectivement beaucoup de caves particulières ici et que le poids des caves coopératives est moindre par rapport à d'autres endroits du Languedoc. Mmh. Mais c'était un travail en commun.
Il y a un vrai esprit de camaraderie alors dans ce lieu.
Globalement oui, après on est tous indépendants, donc il y a aussi, on est tous autonomes, mais l'appellation c'est vraiment la mise en commun d'une notoriété qu'on accepte de partager. Et c'est là où le travail collectif est important pour nous tous.
Est-ce qu'on peut revenir sur la géographie un peu de l'AOP ? Comment on peut donner aux auditeurs l'idée du territoire de cette AOP ? Charlotte.
Oui, alors effectivement, j'ai pas de carte sous les yeux, mais je vois bien le territoire. Donc on part de Ganges, on redescend jusqu'à Saint-André-de-Sangonis exactement, et on remonte vers le pas de l'escalette et vers l'Audève. Donc ça forme comme un grand V qui épouse parfaitement les contreforts du plateau du Larzac. Voilà, exactement comme ça.
Oui, oui, parce qu'on a une carte sous les yeux précisément qui aide bien à visualiser ce territoire. Samuel, tu la vois bien.
Oui, qui peut aller de Saint-André-de-Buige, Arbora, Saint-Jean-de-Fosse, Montpérou, Saint-Jean-de-la-Béquerre, Esclas-du-Bosse, Saint-Privat, Soubesse, Poujol, Le Roux, c'est un très bel
Et donc on va même vers jusque Puy-Chabon et Argeliers.
Oui,
et on...
Moulès et Beausselle.
Exactement, et on vers l'ouest, on va aussi jusqu'à Octon, près du lac du Salagou.
Et alors ce territoire, on parlait des spécificités, en termes géologiques, qu'est-ce qu'on a comme terre, comme matière ?
En fait, pour préciser la géographie qu'on vient de décrire, on peut aussi se dire que la grande majorité de l'aire d'appellation est comprise entre le fleuve Hérault d'un côté et son affluent la Lergue de l'autre. Et il va d'ailleurs jusqu'à la confluence entre les deux rivières. L'appellation terrasse du Larzac, terrasse, c'est au sens terrasse géologique justement fluviatile du fleuve Hérault. Et ce qui fait sens commun dans l'appellation, puisqu'une appellation, pour préciser ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est à la fois un groupe humain, on en a parlé, typicité de produits, donc le vin AOC Terrasse du Larzac, qui à l'heure actuelle est un vin rouge, et c'est aussi un lieu. Puisqu'on est sur une appellation d'origine, on fait référence à une origine. Et ce qui fait sens commun dans ce territoire, c'est d'abord, comme l'a dit Charlotte, la présence du plateau, et on a introduit sur le vent qui est un élément. Donc c'est un peu l'ensemble climatique sur les contreforts du Larzac. Et c'est aussi des territoires de colluvions, d'alluvions, de matériaux en fait, qui ont été érodés à la fois du plateau du Larzac et un peu plus loin des contreforts des Cévennes, dans différentes périodes, parce que vous savez que ce territoire ça a une histoire géologique longue et variée. Mais voilà, ça c'est le commun. Et en fonction des différents étages et des différents dépôts sédimentaires portés par les rivières, et ça fait différents sols dans l'aire d'appellation.
Est-ce qu'on peut préciser alluvion ?
Les alluvions, c'est les matières sédimentaires qui ont été érodées de relief et qui sont apportées après par les rivières, les fleuves et, ou les mers, en fonction des époques géologiques, et qui se déposent quand il n'y a pas d'eau, justement, qui derrière se consolident et font des roches puis des sols.
Merci.
Et c'est vrai qu'ici, on est dans un mélange de climat méditerranéen et de climat assez frais. Ouais. Je suppose que ça va être très bon pour les cépages, particulièrement.
Oui, on est dans un climat méditerranéen, mais on a une influence climatique liée aux causes du Larzac qui est importante, qui est fondamentale pour nous, qui a deux caractéristiques. C'est un peu plus de fraîcheur avec ce massif et son altitude juste au-dessus de nous, avec des vents un peu plus frais qui descendent en particulier en fin d'été quand les raisins mûrissent. Et aussi, et on s'en est réjoui ces dernières années, un peu plus de précipitations à cause de l'influence de ce massif aussi. Voilà.
qui a un impact particulier donc sur le goût, sur
le fait d'avoir un peu plus de fraîcheur, ça permet aux raisins de mûrir un peu plus doucement et donc on ramasse 8 et 15 jours plus tard que nos collègues à 30 km au sud. Et le fait que les raisins mûrissent plus doucement, ils gardent un peu plus d'acidité, un peu plus de fraîcheur. Et on a des vins avec un bel équilibre entre une certaine générosité de vin du Languedoc, de vin du Midi, mais balancé par cette fraîcheur qui donne l'équilibre des vins Terrasse du Larzac. Ensuite, sur les spécificités de nos vins, c'est un vin rouge, le vin Terrasse du Larzac, avec des cépages méditerranéens, Syrah, Grenache, Cinsault, Carignan, Mourvèdre, pour les cépages les plus importants. Et on fait un vin d'assemblage, c'est-à-dire qu'il y a au moins 3 cépages dans un vin Terrasse du Larzac, avec un élevage long d'au moins 1 an, donc c'est un vin de garde, voilà pour les grandes lignes principales.
On peut également aussi parler des valeurs humaines, parce que c'est une aventure humaine, hein, les Terrasses du Larzac avant tout. Vous avez voulu vous entourer de personnalités sincères, souvent fortes, qui ont fait l'image de votre appellation dynamique, jeune, exigeante et sincère. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus ?
Je pense qu'on peut déjà donner la parole à Charlotte, qui est un bon exemple. Charlotte l'a dit tout à l'heure, mais je vais lui redonner la parole, puisque c'est un domaine ici familial et presque ancestral. Et Sébastien, lui, s'est installé à la fois hors cadre familial et hors région à Saint-Jean-de-la-Blaquère en 2006. Et ça représente un peu la diversité des profils des vignerons de l'appellation et le collectif. Et dans Terrasse du Larzac, il y a Terrasse et il y a aussi Larzac. Alors on a parlé du plateau qui est un peu le protecteur, l'élément protecteur qu'on voit de toutes les vignes de l'appellation. Mais il y a aussi la dimension diversité, accueil et melting pot entre justement beaucoup d'arrivants qui ont été séduits par la notoriété des domaines dont parlait Sébastien, qui était un peu historique et emblématique de ce territoire. L'accessibilité des vignes à l'époque, parce que la réputation de l'appellation s'est faite d'abord à l'extérieur avant de se faire sur les lieux mêmes. Et en même temps, on a un certain nombre de domaines historiques qui sont repris par des jeunes profils et qui est une réussite pour moi. Quand vous parliez au début de à quoi ça sert de faire une appellation, ça sert à renforcer une image, une réputation, une notoriété. Du coup, ça veut dire aussi des produits qui se vendent mieux, avec une plus forte valeur ajoutée, ça veut dire aussi plus de rémunération pour les vignerons, et donc ça veut dire une dynamique d'installation qui est plus favorable, soit à la reprise des domaines familiaux, soit à l'installation hors cadre familial. Charlotte, tu peux peut-être dire un peu ton parcours perso ?
Les terrasses du Larzac se sont construites il y a une vingtaine d'années et mes parents étaient parmi ceux qui ont été les premiers avec d'autres à croire en ce potentiel et à vouloir le montrer et y travailler pour montrer que ce territoire effectivement pouvait créer des grands vins. Alors les grands vins ici effectivement ils ont 20-30 ans, mais je reviens un petit peu en arrière puisque ici dans le château on a des archives qui remontent au 12e, 13e siècle, qui parle d'agriculture, de terre à blé, terre à olivier, terre à vigne. On a une archive un peu plus récente qui date de 1870, qui est une liste de prix d'un importateur au Canada qui a importé des vins du château de Jonquière avec 2 cuvées. Et ce qui est très important de noter, c'est que ces 2 cuvées étaient vendues au même prix que des Saint-Émilion sur la liste de prix, et que du muscat de Frontignan, qui est donc produit ici dans le sud, était vendu au même prix que du Sauternes à Bordeaux et 4 fois mieux valorisé que du Saint-Émilion. Donc ce document est très précieux puisque c'est la preuve que le Languedoc était capable de faire du vin à haut niveau, ou en tout cas au même niveau que les autres belles appellations de France. Et donc l'histoire, on la connaît, c'est que le début du XXe siècle a été très compliqué, voire catastrophique pour cette région, puisqu'on était les premiers fournisseurs pour les soldats, pour les ouvriers, que je rappelle que le Languedoc est la plus grande région viticole de France et du monde, et donc on avait cette capacité à fournir à l'époque où on buvait 5 litres de vin par jour, ce qui est révolu et tant mieux dans un sens. Tout ça pour dire que voilà, l'ancrage du vin ici est évidemment omniprésent. Ces lieux en témoignent, on est devant la cave qui a plusieurs siècles, qui est semi-enterrée, où là on travaillait par gravité. J'ai aussi retrouvé des échanges de courriers pendant la guerre de 14-18 avec le propriétaire du château qui était donc à la guerre et qui parlait à son régisseur en disant surtout étalez bien le bisulfite, donc qui était à l'époque le sulfite. Et il a dit ce n'est pas parce que les négociants veulent absolument ce taux de sulfite qu'il faut les écouter, il faut vraiment écouter le raisin et écouter de quelle manière on a récolté le raisin, est-ce que le raisin est sain, et de raisonner pour le la répétition. Donc tout ça c'est des courriers qui sont assez émouvants, je trouve, quand on les lit aujourd'hui.
Ça doit être passionnant de replonger dans les archives comme ça et de retrouver des documents anciens qui retracent l'histoire d'un lieu et d'un métier. Ça doit être vraiment passionnant.
Oui, c'est tout à fait ça.
Comment vous vous êtes, vous, engagé dans ce métier, en fait? Quelle est votre histoire?
Quand mon père est arrivé à Jonquière, il avait une vingtaine d'années et le vin ici s'était arrêté 10 ans auparavant puisque c'était mes arrière-grands-parents qui avaient hérité du domaine. Ils étaient déjà vignerons à Pézenas quand ils ont récupéré le château de Jonquière. C'était pas en ruine, mais c'était, on va dire, un petit peu abandonné, que ce soit les bâtiments ou les vignes. Donc mes arrière-grands-parents, ont décidé d'arrêter la production de vin ici. Mon père avait 10 ans, il venait en vacances ici et donc il a vu que le vin s'arrêtait. Donc une quinzaine d'années plus tard, il a voulu revenir et il a d'abord travaillé en tant qu'ouvrier de mon oncle pour découvrir la vigne et le vin. Et petit à petit, il a repris les vignes, arraché la plupart des parcelles, sauf le Carignan, donc qui a 80 ans, qui est notre plus vieille parcelle. Et il a pris un petit peu le tournant qualitatif des vins du Languedoc à cette époque-là. Ma maman est arrivée en tant qu'étudiante vendangeuse dans les années 80, puis finalement elle est restée. Et ensemble, en 92, donc à l'époque où plusieurs domaines en cave particulière ont émergé ici sur le secteur à Jonquière, Montpérou, Sébastien en parlait un petit peu tout à l'heure aussi, Agnan, etc. Donc ils ont réouvert les portes ici, réouvert la cave, réhabilité, recommencé à vinifier, donc en 92 exactement. Donc j'avais 7 ans. Donc forcément, j'ai vécu tout ça, j'ai vécu la réhabilitation de tous ces bâtiments qui nous entourent. Forcément, ça vous marque. Mais presque pas positivement, parce que j'ai vu mes parents beaucoup travailler et avoir que ce sujet en tête. Donc quand j'ai grandi, j'ai fait d'autres études. Je voulais vivre dans une ville, avoir un petit appartement, enfin tout l'opposé d'ici. Et finalement, les rencontres, les années passant, assez rapidement, avec Clément qui est devenu mon mari depuis, on a décidé de poursuivre l'histoire ici. Avec envie, conviction et amour, et non pas par obligation, je veux le préciser.
C'est la terre qui vous a appelé, c'est la terre qui vous a rappelé, c'est la puissance en fait aussi de ces paysages, presque, on peut dire.
Exactement, oui, vous avez utilisé le mot puissance, c'est comme un aimant. Exactement. Et après, Clément est petit-fils de vigneron des deux parts, ça a sauté des générations, son grand-père était même agent en vin, donc on va dire qu'il avait ça dans le sang, et pour lui ça a été assez évident, pas forcément évident de proposer ça à mes parents, mais ça s'est fait assez naturellement. Et derrière, ça a été assez aussi naturel pour moi de m'impliquer dans l'aventure des terrasses du Larzac aussi, dès mon arrivée.
Oui, vous aviez déjà cette conscience qu'il fallait consacrer beaucoup de temps, beaucoup de questionnements aussi, parce que c'est du questionnement, c'est de la philosophie, c'est de la recherche, la vigne.
Oui, tout à fait. Et puis, nous, ça reste un petit domaine, malgré les bâtiments, le nom et tout ce qu'on peut imaginer autour. C'est un petit domaine familial. On est deux avec une aide depuis quelques années.
Et la volonté aussi de garder des parcelles de terrain modestes, presque, pour mettre davantage en valeur le vin, plutôt que de toujours chercher à grandir, à grandir. À grandir.
Oui, tout à fait. L'idée, c'est toujours dans cette idée de qualité. Je suis revenu ici, j'avais 24 ans, donc ce que je voulais dire, c'est que le métier du vigneron, c'est un métier solitaire et solidaire aussi. On travaille, comme le dit Sébastien, on est chacun autonome dans nos domaines. Et pour moi, les terrasses du Larzac, c'était une façon de rentrer dans un collectif, dans une organisation où on puisse échanger et on puisse voir un peu plus loin que le simple domaine en lui-même, quoi. Donc c'est une mise en commun d'une autonomie qui est assez agréable, parce que si on choisit ce métier, c'est qu'on a envie d'être autonome, mais qu'on peut s'octroyer cette liberté d'être en collectif et d'avancer ensemble. Et pour moi, cette double facette est très importante.
Alors pour vous, c'est une aventure familiale, mais il y a également beaucoup de vignerons qui ont eu envie de totalement de changer de vie et qui sont venus ici aussi alors qu'ils n'avaient pas forcément de pieds installés, on va dire, dans le domaine. Est-ce qu'on peut présenter un petit peu, parmi toute cette dizaine de vignerons, ces quelques aussi destins insolites qui sont venus et qui ont décidé de changer de vie?
Oui, on est assez nombreux à l'intérieur de l'appellation Terrasse du Larzac à s'être installés hors cadre familial, comme on dit, c'est-à-dire que les vignes ne viennent pas de nos parents, alors que ce soit des gens qui sont originaires d'ici ou des gens qui viennent de plus loin. Il y a à l'intérieur de l'appellation des Italiens, des Allemands, des Suisses, non pas Suisses, des Anglais, enfin voilà, c'est très varié. Moi-même, je suis originaire de Saint-Étienne, voilà, je suis pas languedocien, même si ma femme l'est, et c'est un peu pour ça qu'on est ici. À peu près tous, on a répondu et on a été attirés par la dynamique locale qui a été lancée par les pionniers, alors qui était une dynamique individuelle au début, mais qui s'est vite transformée en dynamique collective dans les années 90 et 2000. Et on a vu et on a compris que cette dynamique collective pouvait nous aider aussi, quoi. Et qu'on pouvait travailler et échanger avec un groupe, ça c'est déjà intéressant au quotidien. Et en plus, vendre nos vins un peu plus facilement si la notoriété globale d'une appellation nous porte. Voilà. C'est souvent les deux éléments qui ont fait venir des gens de l'extérieur.
Alors Sébastien, est-ce qu'on peut parler de votre histoire aussi et du domaine Le Clos du Cerf?
Oui.
Comment vous avez commencé?
Alors on s'est installé avec ma femme Béatrice en 2006. On est arrivé, moi j'ai fait des études autres, j'ai fait des études de chimie, mais je me suis assez vite rendu compte que j'avais fait fausse route et que mes origines agricoles étaient plus fortes que ce que je pensais. Quand on a cherché des vignes, on a cherché de façon très large, de Valence à Perpignan. Alors Béatrice m'avait dit au nord de Valence c'est pas possible, elle est gardoise et elle avait envie qu'on soit dans le sud, bon, j'étais d'accord. On a pas mal visité dans le Languedoc, à l'époque l'appellation qui nous attirait parce qu'on buvait régulièrement la notoriété montait déjà, c'était le Pic Saint-Loup. Mais c'était déjà un peu plus compliqué de s'installer et de trouver des vignes dans le Pic-Saint-Loup parce que justement la notoriété faisait qu'il y avait assez peu de vignes disponibles. On est venu visiter ici et le conseiller de la SAFER qui nous a fait visiter a très bien fait son boulot, ce qui nous a dit je pense, vu comment ça démarre, vu les gens qui sont déjà là et la qualité des vins du secteur, je pense que c'est une appellation qui peut faire comme le Pic-Saint-Loup. Et donc il a eu le nez creux. On l'a écouté et on s'en réjouit. Mais ce qui nous a séduit quand on est arrivé ici, donc ça c'était un élément, mais ce qui nous a vraiment séduit quand on est arrivé ici, c'était deux choses. C'était la qualité des vins et c'était la beauté des paysages. La première fois qu'on est venu ici, il pleuvait, il faisait un temps moche, c'était en plein hiver, mais on a trouvé le lieu vraiment très beau. Et on s'est dit, malgré ce temps, si on trouve le lieu aussi beau, ça va aller le reste de l'année, quoi. Voilà, aujourd'hui, on en est ravis.
Le vigneron, si vous en parlez, c'est aussi être sculpteur presque. Vous êtes un sculpteur de paysages.
Oui, un peu ça. C'est un peu grandiose de le dire comme ça. Mais on façonne les paysages à notre mesure, oui, c'est vrai. Et on est les premiers spectateurs de ça. Moi, par exemple, travailler au milieu d'un paysage monotone, je m'y voyais absolument pas, quoi. Voilà. Ici, je suis bien au milieu de ces collines.
Si je peux rajouter quelque chose, je suis né ici. Donc, quand vous naissez dans un endroit, vous ne vous rendez pas forcément compte de la beauté de la chose, parce que pour vous, c'est une habitude. Et quand j'ai grandi, quand je suis parti faire mes études, donc voilà, pendant plusieurs années, et quand on revient, c'est là où on se rend compte de la chance que l'on a. Petite anecdote, quand on a la première année avec Clément, on est allé acheter un appareil pour la cave dans une autre région viticole dont je tairai le nom, et c'était plat. Plat, plat, plat. Et on était comme dans une mer à perte de vue. Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience de cette chance qu'on avait d'être ici, en terrasse du Larzac. Puisque là, on le voit pas, on est entre les murs de la cour. Mais si vous sortez, et si vous faites un 360 degrés autour de vous, vous avez toujours une colline, un relief, un mont, et on est comme dans un grand nid. Donc vous parliez de paysage grandiose, je crois que c'est ça. C'est grandiose parce que c'est grand, c'est majestueux, mais tout en étant entouré et protégé. Et ça, c'est au quotidien très agréable.
Quel regard vous portez tous les deux sur votre métier ? Enfin, vous nous racontez un peu votre histoire maintenant, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous vous dites sur les choix que vous avez faits ?
Quand on est coincé dans le quotidien, on est pris dans nos questionnements du jour. Là, par exemple, on arrive dans la période où c'est vraiment la vigne qui dicte l'emploi du temps. Et entre maintenant et mi-juillet, en général, on ne touche pas terre, quoi. Donc, on n'a pas de grands questionnements philosophiques à cette époque-là. On est vraiment à regarder le ciel, à regarder la vigne et à suivre le rythme que nous impose le temps. Mais quand on prend un peu de recul, par exemple le choix qu'on a fait de venir ici, on ne le regrette pas une seconde. Et la dynamique collective qui a été démarrée il y a une trentaine d'années, les collègues qui l'ont initiée en sont, je crois, assez fiers. Par exemple, les parents de Charlotte en sont fiers. Et tous les autres collègues qui ont démarré ça, c'est même allé un peu au-delà de leurs espérances, ils nous le disent parfois. Voilà, on est heureux de ça, ouais.
Sébastien, vous avez écrit également, pour décrire les clos du cercle, être vigneron, c'est être attentif à ce que la nature vous dit, savoir l'observer, savoir l'attendre, parfois plusieurs années, être exigeant et bienveillant avec elle, comme on peut l'être avec nos propres enfants, prendre les bonnes décisions pour l'aider à donner le meilleur. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler aussi de cette parenté presque filiale avec la vigne ?
Là, j'avais réfléchi. Le boulot de vigneron, c'est d'abord observer et essayer de comprendre ce que la vigne et la nature pourront nous donner. Par exemple, quand on plante une vigne, il faut imaginer, en fonction des années qu'on vient de passer et de la connaissance qu'on peut avoir d'une parcelle, imaginer d'abord quelle vigne va être la plus adaptée à cette parcelle. Quel cépage, quel porte-greffe, quelle façon de... comment on va planter, avec plus ou moins de densité. Enfin, c'est des questions techniques de vigneron, mais qui sont fondamentales le jour où on va planter. Et on n'a qu'un essai. Normalement, on plante sur une parcelle une fois. C'est les générations suivantes qui recommenceront. Si on est obligé d'arracher, c'est qu'il y a eu un échec majeur. Donc l'observation, elle vient même avant de planter la vigne pour savoir ce qu'on imagine être le mieux. Avec en plus des questionnements aujourd'hui de réchauffement, de pluie plus irrégulière. Voilà, cette observation, elle est fondamentale dans le temps long. Et après, elle est fondamentale dans tous nos gestes quotidiens. Là, aujourd'hui, on commence au mois de mai, on fait des ébourgeonnages. Donc, sur chaque pied, on choisit les sarments qu'on garde et ceux qu'on enlève. Ensuite, on essaie de maîtriser l'herbe, plus ou moins. Selon le temps, on fait un traitement pour protéger de mildiou et oïdium, qui sont les champignons qui nous embêtent à cette époque. Donc, on fait une multitude d'observations au quotidien. Mais on mixe le temps long et les médias.
Est-ce que vous avez une marche, un droit à l'erreur dans vos métiers ?
Non, effectivement, comme dit Sébastien, on plante la vigne une fois et pour 30, 40, 50, 60 ans si on peut. Et c'est un petit peu pareil pour la vinification. Souvent, on peut comparer la cuisine et le vin. Le cuisinier, lui, il peut faire et refaire son plat. Effectivement, il lui faut une bonne matière première, mais il peut refaire ses plats. Le vigneron, il a le droit de vinifier sa parcelle de Carignan une fois par an. Et une fois par an, il a ses raisins sur cette parcelle avec ce type-là. Et effectivement, finalement, on n'a pas beaucoup de chance de faire du vin dans sa vie. Et mon papa, par exemple, il a fait de la vigne pendant 40 ans, mais il a fait du vin 20 fois dans sa vie. Et ce qui, finalement, si on raisonne vraiment, c'est assez peu. Donc c'est des raisonnements effectivement sur le long terme, mais quand on est effectivement le jour de la vinification, le jour de la récolte, Là, c'est un temps très court parce qu'on se décide, aujourd'hui, je vais récolter cette parcelle avec ce taux de sucre, ce taux de maturité, cet équilibre. Et cet équilibre-là, qu'on aura décidé ce jour-là, va définir le résultat des jus et des vins qui vont peut-être être dégustés 3, 4, 10 ans après. Et ça, c'est assez extraordinaire.
Il faut constamment conjuguer l'immédiat et le lointain. Ça, on s'était rencontré il y a déjà 2 ans par rapport justement aux terrasses et appellations du Larzac, et j'avais pu rencontrer un des vignerons, en tout cas phare peut-être aussi des terrasses du Larzac, qui est Olivier Julien, qui écrit des livres autour des vins, qui écrit des poèmes aussi. J'ai ramené aussi un de ses livres, justement, La mécanique des vins, et c'était une rencontre assez saisissante aussi, qui m'a fait mieux saisir justement toute cette attention, toute cette écoute qu'il fallait avoir vis-à-vis de la terre, et cette importance de prévoir, de se projeter sur 100 ans, de ce rapport à la terre, etc. Est-ce qu'on pourrait présenter aussi ce vigneron ?
Olivier Julien, il s'est installé début des années 80 et il a créé le Mas Julien. J'espère que je ne vais pas dire des bêtises.
Oui, tout à fait.
J'avais 83 en tête, mais... De mémoire, son père était coopérateur, il a fait du vin, Jean-Pierre, après Olivier.
Oui, c'est ça.
Ce qui est intéressant dans le livre que vous venez de citer, La mécanique des vins, justement, c'est toute la première partie. Il parle de son histoire, de son installation, et aussi il a fait résonner avec l'histoire du Languedoc, parce que ce soit dans sa famille maternelle ou paternelle, il y avait un engagement collectif, coopératif et syndical. On l'entend dans ce que dit Charlotte aussi. En fait, je pense que l'investissement dans une dynamique collective telle que celle d'une appellation et donc d'un syndicat qui porte une appellation, elle s'hérite aussi d'une certaine façon. C'est-à-dire, c'est aussi en voyant souvent ses parents ou sa famille qui s'investissent dans des structures de collectives de ce type que ça nourrit l'envie aussi et qu'on perçoit sans doute l'intérêt de s'investir dans ces dynamiques collectives. Après, pour revenir à Olivier Julien, c'est un des domaines phares du Languedoc, au-delà de l'appellation Terrasse du Larzac, et qui a un regard assez intéressant à écouter. C'est sans doute ce que vous avez perçu quand vous l'avez... Enfin, ce que tu as perçu quand tu l'as rencontré. Poète et philosophe, et effectivement, un regard sur son métier, la terre, qui va au-delà du métier qu'on pourrait croire à très concret, mais en fait, On entend dans ce que dit Sébastien et Charlotte qu'il y a aussi le côté où on est dans les vignes à faire des travaux qui peuvent sembler répétitifs d'un point de vue externe, mais qui peut-être donnent aussi l'espace à ce moment-là d'avoir, je ne sais pas, vous n'allez peut-être pas me confirmer, mais l'esprit qui est ouvert justement à admirer le paysage, à explorer, à observer, et qui est aussi peut-être un atout de ce métier, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, oui, j'ai de moins en moins le temps d'aller dans la vigne, aller à la vigne, mais j'aime beaucoup y aller parce que pour moi c'est une façon de s'évader. C'est vrai qu'on fait un travail répétitif, manuel, mais à la fois on voit plus grand, on imagine des choses, peut-être un peu trop extraordinaires ou un peu trop utopistes, mais ça nous permet effectivement de se dissocier et de réfléchir au domaine, à des projets, et à des projets aussi plus globaux dans l'appellation. Donc oui, oui, il y a un côté philosophique et encore une fois de temps long dans cette activité qui est le travail dans la vigne.
Et peut-être pour revenir à Olivier Julien, il a aussi, je pense, la particularité d'avoir beaucoup, beaucoup expérimenté dans ses vignes et dans ses vinifications, à planter certains terroirs, arracher certains terroirs pour replanter à d'autres, à reconquérir entre guillemets des parcelles et des terroirs qui avaient été abandonnés parce que la logique commerciale et la parenthèse un peu dépréciative du Languedoc sur les deux tiers du XXe siècle avait fait qu'on avait abandonné certaines vignes. Il a expérimenté aussi en plantant en Aveyron. Et c'est quelqu'un qui est aussi toujours, je pense, attentif à la nouveauté. Et si je peux aussi faire moi, personnellement, par exemple, je ne pourrais pas faire le métier de vigneron parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses que je ne maîtriserais pas. Et en même temps, je pense que c'est sans doute quelque chose qui en rend l'intérêt. Récemment, on a reçu Marc-André Sélos avec le Sivam Bio, là, qui nous a parlé des mycorhizes et de la symbiose entre les champignons dans le sol et les racines de vignes. Et en parallèle, on avait fait en janvier une formation sur la gestion des couverts végétaux dans les interrands dans les vignes. Et pour le coup, les deux intervenants d'une partie de la formation et l'autre côté de la conférence donnaient presque des conclusions diamétralement opposées sur ce qu'il faudrait faire dans la vigne. Et en fait, je pense que chaque vigneron doit faire une synthèse un peu de l'état des connaissances, de ses connaissances propres de sa parcelle, de sa vigne, le climat de l'année, etc. Comme disait Charlotte, le côté one shot, on réussit qu'une fois le millésime. Et en même temps, des tas d'évolutions qui sont sur le long terme, et en plus des tas de contraintes dont il faut faire une synthèse permanente. Sans doute à la fois la difficulté et l'intérêt, j'imagine, du métier.
Olivier, Julien tient d'abord un journal de bord de tous ces vins, de tous ces millésimes. Est-ce que vous fonctionnez aussi de la même manière? Est-ce que vous écrivez constamment vos recherches? Comment vous documentez votre propre profession?
Moi, je ne prends pas assez le temps d'écrire et de poser. C'est le quotidien qui me pousse. Et voilà, je devrais, mais je ne le fais pas. Parce que quand on se retourne et quand on lit, par exemple, ce qu'il a marqué sur ces années passées, c'est passionnant, quoi, de voir comment il l'a vécu et comment aujourd'hui on voit ce qui s'est passé il y a 15, 20, 30 ans. C'est très intéressant. Ouais.
C'est une grande chance pour nous d'avoir effectivement Olivier Julien et ses écrits dans des livres accessibles à tous. En le lisant il y a quelques années, on découvre en fait des choses sur le passé aussi, en plus, qui viennent nourrir nos connaissances, donc merci à lui.
Alors, nous enregistrons aujourd'hui cette émission dans les cadres d'un anniversaire, c'est les 10 ans de l'AOP. On en a parlé un petit peu en début d'émission quand je vous posais la question de pourquoi se réunir en AOP. Quelles sont les forces de cette appellation? Qu'est-ce que ça apporte? Mais au-delà de ça, pourquoi c'est vraiment essentiel de se regrouper?
Bah, je vais un petit peu redire, une appellation c'est trois choses, c'est le terroir, quand on parle de terroir on parle de sol et de climat, ensuite c'est les vins qui sont produits sur ces terres-là, donc les vins AOP Terrasses du Larzac Rouge, et c'est le groupe humain. Et donc la réunification de ces trois éléments on fait une émulsion, donc une cuisine, un assemblage assez réussi, en tout cas chez nous. Mais le premier élément qui nous aide au quotidien, c'est ce terroir. Donc on a parlé du plateau du Larzac, du vent, qui est vraiment le dénominateur commun, qui souffle régulièrement et qui agit comme un antidote naturel aux champignons, au mildiou, à l'oïdium, ce qui fait que on est 70% de l'appellation à travailler en bio. Et ensuite, il y a la diversité de ces terroirs, enfin de ces sols, qui s'étalent donc sur tout le territoire dont on a parlé, avec des altitudes aussi différentes. Et c'est ce qui en fait la richesse, une hétérogénéité, mais une homogénéité dans le climat, une homogénéité dans le style, avec des vins généreux, mais avec une tension, une fraîcheur qui est commune à toutes et à tous. Je crois que le consommateur de vin, il apprécie et il ressent quand les choses sont alignées, que ce soit à titre individuel de domaine ou que ce soit à titre d'une appellation. Quand la personne qui boit le vin comprend ce qu'il y a derrière ou comprend les intentions derrière le vin, il s'y retrouve. Et je crois qu'en Terrasse du Larzac, c'est ce qui s'est passé depuis 20 ans. C'est une sorte d'alignement des planètes qui a joué en notre faveur et créé une émulsion comme ça autour. Est-ce que je me trompe ?
Ah non, c'est exactement ça. Et en plus, tous ceux qui sont venus rejoindre le noyau initial sont venus pour ces raisons-là. Et du coup, ils sont venus avec les mêmes intentions et les mêmes exigences. Ce qui fait que je pense que quand vous ouvrez une bouteille Terrasse du Larzac de n'importe qui, vous retrouvez ça. Et vous retrouvez ce niveau qualitatif, vous retrouvez cette exigence. Et le vin en est vraiment l'image. Et le fait que les gens soient venus à l'appellation avec ce niveau d'exigence, ça donne un groupe qui est sur les mêmes critères, sur les mêmes envies, et donc une appellation homogène, avec l'envie de faire bien, de faire bon.
C'est le bilan qu'on peut tirer de ces 10 ans ?
Le bilan, c'est que les consommateurs et les gens autour nous reconnaissent et commencent à nous reconnaître ça. Par exemple, quand on va loin, quand on va faire goûter nos vins ailleurs en France, ça fait souvent plaisir de voir le regard, par exemple, des autres vignerons d'autres régions, le regard bienveillant et presque un peu envieux qu'ils ont sur l'appellation Terrasse du Larzac et sur notre dynamique. Ils sont des fois une petite pointe de jalousie amusée en nous disant vous, Terrasse du Larzac, c'est vachement bien, ça nous remplit un peu de fierté, on est content, voilà. Et quand c'est les consommateurs qui nous le disent, on est ravis aussi.
Parce que ça fait entièrement partie de votre quotidien aussi d'aller représenter l'AOP au national et après, je sais pas, aussi peut-être l'international. Bon, tu parlais du Canada, mais c'était il y a longtemps. Quelle part ça prend ça dans votre quotidien, cette communication, enfin cette représentation?
Finalement, beaucoup, puisque dans le temps long, comme on en parlait, il y a aussi il y a la production, il y a la production du raisin, ensuite il y a la transformation en vin. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, effectivement, il faut proposer notre vin et qu'il soit vendu. C'est tout le cycle du parcours du vigneron, puisque c'est un métier 5 en 1. Et donc, je dirais que l'aboutissement du métier de vigneron, c'est quand les vins sont bu et recommandé. Un des gros travaux du vigneron, c'est aussi d'aller vendre le vin, de se déplacer, d'en parler à des professionnels, à des particuliers, à des journalistes. Et ça, c'est pas forcément un travail facile non plus, puisque ça veut dire que, pardon, mais il faut être bon partout. Il faut être bon à la production, à la transformation, au marketing, parce que finalement, il y a du marketing dans notre métier, et à la communication, et à faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de savoir parler de nous, de parler de notre terroir, de parler de notre travail, de le valoriser, ce qui n'est pas non plus une tâche facile pour tout le monde, quoi. Et donc souvent, les périodes où on va représenter nos vins, c'est dans les moments creux de la vigne. Donc je dirais que c'est fin octobre, novembre, février, mars à peu près, si on est bien organisé à la vigne.
Oui, c'est très important de raconter, de communiquer, de transmettre. Boire un vin, c'est aussi boire une histoire. Mmh. Donc, et d'ailleurs, Olivier et Julien aussi en parlent de cet effet de, d'être un bon communicant, mais en même temps de ne pas être totalement obnubilé par le commercial, l'aspect commercial de la chose. Toujours revenir à la vigne, il y a toujours ce côté-là de revenir à l'histoire de sa propre vigne aussi. Mmh.
C'est une histoire d'équilibre.
Complètement. Et est-ce qu'on n'a pas évoqué, en fait, aussi, c'est que c'est une appellation, on l'a dit au début, hein, où les coopératives étaient présents au départ et il y a effectivement des caves coopératives dans l'appellation. Mais on a aussi de nombreux domaines et caves particulières et qui sont tous à taille humaine. La moyenne des tailles d'exploitation sur l'aire d'appellation, c'est 16 ou 17 hectares. Donc c'est toutes des exploitations familiales où, comme le disait Charlotte, les vignerons sont à la fois dans la vigne, dans la cave et dans la commercialisation. Et ils font plein de métiers. Et peut-être que ça donne d'autant plus de sens aussi au travail syndical, pour le coup, parce que ça permet d'amplifier les démarches individuelles, on va dire, et de porter un peu les histoires des uns et des autres, sachant que, comme on l'a dit, c'est une appellation qui est riche justement d'histoires variées et humaines et qui est plutôt dans un cercle vertueux aussi grâce à ça, en fait. L'attraction et le fait que certains vignerons ont raconté leurs histoires et l'ont porté au-delà du Languedoc a attiré et a aussi permis de construire d'autres histoires et tout ça se nourrit. Charlotte parlait d'alignement de planète, moi je parle de servitude, mais c'est effectivement on est porté et moi à titre personnel en ayant un travail plus de l'ombre ou de moins sexy qu'un vigneron. C'est hyper plaisant de travailler aussi avec toutes ces personnalités hyper riches et intéressantes et enrichissantes. Quoi.
Sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud, on pourra entendre aussi des portraits de vignerons que vous aviez réalisés sur le terrain pour se rendre aussi davantage compte de toutes ces histoires qui sont à l'œuvre ici. 10 ans d'histoire, 10 ans d'aventure, les terrasses du Larzac, on le sent, c'est marqué par des émotions, des souvenirs. Cet aspect familial, cet aspect de sincérité, d'exigence. Alors comment fêter un tel événement? Il y aura notamment les vendredis 5 et 6 juillet, la 21e édition de la Circulade en terrasse du Larzac.
On a déjà passé un événement qu'on organise depuis 2018 en mars, qui s'appelle Tous en terrasse du Larzac, où les vignerons vont à la rencontre et de leurs clients cavistes, restaurateurs et des consommateurs finaux. Parce que sans doute aussi la proximité de Montpellier n'est pas rien, n'est pas pour rien dans la notoriété de notre appellation. Et on a un événement phare que les vignerons organisent depuis 2003, donc même avant que Terrasse du Larzac apparaisse sur les bouteilles. La Circulade, qui est une balade gastronomique dans les vignes, toujours premier week-end de juillet. Cette année, c'est pour ça qu'on se retrouve ici aujourd'hui aussi. Elle s'achèvera dans ce lieu assez somptueux et dans le parc du château de Jonquière où les convives dégusteront à la fois le fromage et les desserts au sein d'un groupe de blues et folk cette année. Et donc le principe de la Circulade, c'est une balade d'environ 7 km dans une commune de l'aire d'appellation. Ça change chaque année, donc cette année c'est départ et arrivée à Jonquière. Et tous les 2 km, les convives dégustent un plat du menu et vont à la rencontre d'une dizaine de vignerons qui leur font déguster leur vin. Donc cette année, il y a 57 caves et domaines qui font déguster leur vin tout au long du parcours. Voilà.
Ça va être un parcours intensif.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que les autres années, c'était des parcours qui se passaient plutôt, comme on voit sur la carte, hein, sur des reliefs, plutôt dans la garrigue, où finalement on voyait les vignes d'un peu loin. Cette année, ça se passe à Jonquière, donc on sera plutôt en contrebas du plateau du Larzac. On va surtout se promener dans les vignes, au cœur du sujet, avec toujours cette vue sur le plateau du Larzac, donc autour de Jonquière.
Une marche musicale, une marche festive, une marche gustative. D'ailleurs, les réservations pour ces deux soirées, comment ça se passe?
Elles se font principalement en ligne hein, sur un site de réservation dont on trouve l'adresse facilement sur notre site internet à partir du 13 mai.
De ce 13 mai, soyez attentifs en effet.
Ça correspondra aussi après la diffusion de l'émission que vous écoutez actuellement à divers, comme tu l'as dit tout à l'heure Samuel, des portraits qui seront diffusés toutes les semaines sur Radio Pays d'Hérault.
Oui, il y aura à boire, je suppose qu'il aura à manger aussi pour un peu.
Oui, c'est un menu gastro et donc à chaque étape on mange une mise en bouche, une entrée, etc.
Alors même mise en bouche, une entrée froide, une entrée chaude,
six plats,
un plat, du fromage et un dessert. Donc oui, il y a de quoi se régaler.
C'est une balade assez longue, hein. Il faut bien compter 3h30, 4h pour faire le tour, rencontrer. C'est très convivial. Il y a 57 structures qui sont représentées. Certains sont à deux, donc ça fait quasiment une centaine de vignerons qui sont présents sur les lieux.
Oui, ramenez peut-être un carnet de notes pour noter vos vins préférés.
C'est même fourni à l'entrée.
Ah, excellent.
Vous aurez un verre, un carnet et un petit stylo.
Très bien. En termes d'agenda, Vanessa, est-ce qu'il y a d'autres dates que l'on peut donner aux auditeurs et aux auditrices ?
On pense faire un anniversaire aussi autour de l'appellation, mais comme on l'a dit, l'enjeu aujourd'hui pour l'appellation, maintenant, c'est de renforcer toujours sa notoriété. C'est aussi un appui pour accompagner l'ensemble des caves et domaines à vendre leur vin, hein, parce que c'est aussi quand même un enjeu. On ne peut pas dire que le contexte soit le plus florissant du monde. On disait à quoi ça sert une appellation tout à l'heure. En l'occurrence, l'appellation Terrasse du Larzac, aujourd'hui, elle est quand même un amortisseur par rapport à... Je ne dis pas que c'est simple, je pense que les vignerons aussi de l'appellation doivent mettre plus d'énergie dans la commercialisation en ce moment et comme les autres ne sont pas à l'abri des perturbations climatiques qui ont une influence certaine chaque année. Mais la force justement de cette marque collective, de l'AOC, c'est d'amortir les difficultés et justement de valoriser. Pour cela, le boulot du syndicat, c'est aussi d'aller au-delà de l'Occitanie et de renforcer toujours et encore la notoriété de l'appellation. Et en ce sens, l'événement un peu phare des 10 années, ça se tiendra sans doute à Paris, plutôt au premier trimestre 25. Comme on est dans l'élevage long des vins, on peut se permettre que les 10 ans, ils naviguent un peu entre 2023 et 2025.
Pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer à la Circulade les vendredis 5 et samedi 6 juillet, vous proposez sur ce domaine également une sorte de visite audio des domaines des vignerons.
On a créé effectivement une application qui s'appelle Itinérance en Terrasse du Larzac, qui est une application web, donc n'allez pas voir dans les stores, ça ne se télécharge pas, il suffit d'aller sur notre site internet pour pouvoir avoir l'accès à cette application. Et cette application, elle permet, c'est d'abord un annuaire en fait, un annuaire de l'ensemble des caves et domaines de la qui sont géolocalisées. C'est-à-dire que quand on est à un endroit de l'aire d'appellation, on ouvre l'application et on voit les domaines qui sont et les caves qui sont autour de nous. Ça, c'est une chose déjà assez pratique. On tape assez facilement sur... Ça ouvre le GPS pour qu'on se rende au domaine voisin et ça ouvre aussi assez facilement le téléphone pour réserver la visite et la dégustation dans tel ou tel domaine. Puisque je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des petites structures, donc ils n'ont pas nécessairement des caveaux de vente ouverts H24, donc c'est important d'anticiper et de prendre rendez-vous quand on veut faire une dégustation. Cette application, elle permet aussi, on a trois routes des vins à l'heure actuelle en ligne sur cette application qui maille une partie de l'aire d'appellation, donc il y a une partie sud, enfin peu importe, trois circuits aujourd'hui qui ont chacune une thématique, donc une thématique sur la géologie, une thématique sur la biodiversité, l'agro-environnement et une thématique sur l'histoire d'appellation. Et donc on chemine en voiture avec des points d'étape et à chaque point d'étape on peut écouter un podcast qui mêle à la fois, on a un expert dans chaque route donc qui décrit un peu le paysage autour de soi, par exemple sur la route qui s'appelle Roche et Paysages, c'est Shona Grava-Audan qui était chargée de mission au sein du géoparc Terre d'Hérault qui décrit la géologie et Jean-Claude Bousquet aussi, géologue bien connu local, qui explique en fait l'histoire de la géologie de manière plus pointue que ce que j'ai pu faire tout à l'heure de manière un peu lapidaire. Et il y a des extraits de paroles de vignerons en fait qui expriment comment pour reprendre cet exemple sur la géologie, bah comment au quotidien, à la vigne et à la cave, je tiens compte ou je fais avec les sols et la géologie sur lesquels mes parcelles se trouvent. Et enfin, toujours dans l'application qui est assez riche, certains domaines, il y en a 12 aujourd'hui, proposent des visites là qui sont plutôt pédestres ou cyclistes autour de leur caveau, qui est un peu un supplément à la dégustation au caveau et qui se fait un peu sur le format d'une visite audio guidée comme dans un musée. On chemine sur un parcours préétabli et pareil, on a des stops où le vigneron raconte un peu, alors soit la parcelle qu'on voit devant ses yeux, soit l'histoire du domaine. On parlait d'histoire des profils tout à l'heure, c'est empreint de l'histoire et parfois presque de l'intime relation aux vignes et au métier de chaque vigneron. Et Charlotte, justement, au château de Jonquière, elle fait partie d'un de ces 12 domaines qui a créé une balade autour du château.
Et si on veut visiter justement le château de Jonquière et le domaine Le Clos du Cerf, où est-ce qu'on peut vous contacter?
Pour nous, le mieux c'est de nous téléphoner parce que, comme disait Vanessa, on n'est pas toujours présent au caveau. On reçoit avec plus grand plaisir, mais voilà, sur rendez-vous. Donc un mail ou un coup de téléphone pour être sûr qu'on soit là.
Pour le château de Jonquière?
Oui, donc on est ouvert plutôt sur des horaires d'ouverture, effectivement. Et on a une visite papier qui permet de découvrir assez rapidement l'histoire du domaine. Et après, on a la visite audio qui, là, vous permet de parcourir aussi dans les vignes et de vous imprégner vraiment plus longuement de l'histoire du domaine, de l'histoire de la région même, puisque j'en parle un petit peu, et de visiter un petit peu le village et l'église. Et après, on fait des visites aussi guidées sur rendez-vous pour des groupes.
Très bien. Ben, merci beaucoup à tous les trois pour cette émission. Donc, c'était Charlotte de Béarn, vice-présidente et vigneronne ici au château de Jonquière, qui nous a accueillis pour cette émission. Merci beaucoup pour l'accueil.
Merci à vous.
Vanessa Méline, directrice du syndicat AOP Terrasses du Larzac, et Sébastien Fillon, président et vigneron au domaine Le Clos du Cerf.
Merci.
Merci beaucoup à tous les deux. On se donne rendez-vous donc le
5 et 6 juillet.
5 et 6 juillet, merci beaucoup pour fêter les 10 ans de cette AOP et participer donc au Circulat de Vigneronne en terrasse du Larzac.
Et voilà, et nous allons faire un tour du caveau et on rappelle que l'alcool est à consommer avec modération.
Merci Sam, à très bientôt.
Un jour puissant puis mille, et des ailes dans les yeux, fuis la route, suis le fil. Soleil dans mes cieux, raisin rouge pour médaille, une bataille et tout bouge. Quand le voyage m'enlace, ce qui nous lie est là. Et moi, je passe, je passe, je passe. Quoi mon talent, mon écorce, quoi mes forces. Moi je doute. pas ma force. Peu m'importe si demain mon chez-moi est ailleurs, mon chez-moi est si loin. En attendant, je passe. En attendant, je passe. En attendant, je passe.